France Culture.
Tout de suite, c'est le point sur l'information avec le journal de la rédaction avec Thomas Cluzel. Rebonjour Thomas.
Rebonjour Marie, bonjour à toutes et à tous. 10 ans après les attaques djihadistes du 13 novembre 2015, la France se souvient. Aujourd'hui, nous serons au début des cérémonies d'hommage aux victimes de cette nuit de terreur. Et puis avec notre invité, on se demandera comment la justice antiterroriste a évolué dans l'Hexagone ces 10 dernières années. On se rendra par ailleurs en Allemagne pour s'enquérir de la santé de l'écrivain Boualem Sansal qui après 361 jours de détention a recouvré hier la liberté. Et puis on tâchera de comprendre pourquoi et surtout comment l'Union européenne a choisi ce matin d'alléger sa législation sur le devoir de vigilance des grandes entreprises. Chacun se souvient précisément de ce qu'il faisait ce soir-là et pourtant qu'il semble encore difficile, 10 ans après, de trouver les mots justes pour décrire avec exactitude l'effroi et la sidération qui a saisi chacun d'entre nous face à cette tragédie désormais figée dans nos mémoires, 10 ans après l'équipée macabre et barbare des terroristes fanatisés de Daesh. La France rend hommage aujourd'hui aux victimes comme aux rescapés des attentats du 13 novembre 2015 qui à Paris et dans sa banlieue ont fait 132 morts et plus de 350 blessés. Le président Emmanuel Macron a commencé ce matin à se rendre sur chacun des lieux meurtris par cette nuit de carnage et de supplice. Le Stade de France, tout d'abord, en ce moment même devant les terrasses du Petit Cambodge et du Carillon. Viendront ensuite la Bonne Bière, le comptoir Voltaire, la Belle Équipe et enfin le Bataclan, un stade de foot, des bars, des restaurants, une salle de concert, autant de lieux qui évoquent l'effervescence de la vie, même si en l'occurrence ce 13 novembre de la nuit parisienne ont surgi des cimetières. En fin de journée, un jardin mémorial fait de grandes de stèles et de blocs de granit évoquant la géographie des différents lieux visés sera inaugurée près de l'hôtel de ville. Et puis ce soir, les cloches de Notre-Dame et des églises de la capitale résonneront dans toute la ville lumière. Simon Le Baron, bonjour.
Bonjour.
Vous vous trouvez actuellement donc devant les terrasses du Petit Cambodge et du Carillon où se poursuit cette journée de commémoration.
Oui, devant ce restaurant et ce bar du 10e arrondissement de Paris où 13 personnes ont été tuées ce soir-là du 13 novembre 2015. Les noms de ces 13 victimes viennent d'être lus. Ils sont inscrits sur la plaque qui a été apposée de l'autre côté du carrefour. Le président de la République est là, bien sûr, la maire de Paris, le Premier ministre Sébastien Lecornu et puis François Hollande qui était président de la République, on s'en souvient à l'époque, le Premier ministre de l'époque aussi Manuel Valls, le ministre de l'Intérieur Bernard Cazeneuve et puis surtout les proches, les familles des victimes, les rescapés. Il y a eu plusieurs dizaines de blessés ici, de blessés physiques et de blessés psychiques sur ce carrefour, comme sur tous les lieux de ces attentats du 13 novembre 2015. Nous étions il y a quelques minutes devant le Stade de France. 6 personnes avaient été blessées grièvement ce soir-là par les kamikazes et puis une personne tuée, Manuel Diaz. Il était chauffeur d'autocar, il avait 63 ans et sa fille Sophie Diaz a tenu à prendre la parole pour qu'il ne soit pas oublié, c'est sa crainte que son père soit effacé finalement de la mémoire collective, d'où ce discours que Sophie Diaz a tenu à prononcer et ce vide qu'elle a évoqué, ce vide qui ne se comble pas et cette absence qu'elle ressent tous les matins depuis 10 ans. Ce sera la seule prise de parole d'un proche de victime tout au long de ces séquences d'hommages qui vont se dérouler toute la journée jusqu'à la cérémonie officielle ce soir à 18h dans le jardin du souvenir qui a été inauguré il y a quelques mois derrière l'hôtel de ville à Paris. Après le Carillon et le Petit Cambodge, dans quelques minutes, nous irons à la Bonne Bière et au restaurant Casa Nostra. Puis ce sera le comptoir Voltaire, puis la Belle Équipe, puis le Bataclan. Voilà pour le programme de cette journée d'hommage très solennelle qui se poursuit désormais.
Merci à Simon Le Baron ainsi qu'à Gilles Gallinaro pour les moyens techniques. Alors 10 ans après les attentats, la menace terroriste a-t-elle évolué en France selon des sources proches des services de sécurité? Les groupes djihadistes tels que Daesh ne semblent plus avoir les moyens aujourd'hui d'organiser des attaques coordonnées de cette ampleur sur le territoire français. On parle à présent davantage de risques d'attentats dits inspirés, c'est-à-dire commis par des individus isolés que projetés, comprenez, pilotée, coordonnée depuis la Syrie, comme ce fut le cas le 13 novembre. Pour autant, la propagande djihadiste en ligne continue d'exercer une influence certaine, voire contribue à radicaliser des jeunes fascinés par la violence vue sur les réseaux sociaux. Et puis l'autre question, 10 ans après, est de savoir comment a évolué la justice terroriste. Quels changements sont intervenus depuis le 13 novembre? Florence Turm a posé la question à Olivier Christen, procureur national antiterroriste. Il est aujourd'hui l'invité de la rédaction.
Olivier Christen, bonjour.
Bonjour madame.
Vous êtes procureur national antiterroriste à la tête du PNAT, ce parquet spécialisé créé en 2019. On peut considérer que les attentats du 13 novembre 2015 ont été un tournant pour la justice antiterroriste et les compétences qu'elle a eu à déployer par la suite.
Ce qui est certain, et ce qui est une évidence même, c'est que les attentats de 2015 ont été un marqueur pour le terrorisme par leur ampleur, l'organisation qu'ils ont supposée et le nombre de victimes. Ils ont conduit en fait à une très large réflexion sur l'adéquation de notre dispositif pour répondre à une menace qui était en profonde évolution à ce moment-là. Et cette réflexion, elle a conduit à une profonde refonte de l'ensemble du dispositif antiterroriste en France, au vote de 8 lois entre 2015 et 2025. Dans l'organisation judiciaire, il y a évidemment la création du parquet national antiterroriste auquel on a confié non seulement l'antiterrorisme, mais également les crimes contre l'humanité et les crimes de guerre. Et puis le troisième point qui est essentiel est le renforcement de la coordination de l'ensemble des acteurs chargés de la lutte antiterrorisme, à la fois au niveau du renseignement avec la désignation de la DGSI, la Direction Générale de la Sécurité Intérieure, comme chef de file de l'antiterrorisme en renseignement. Des points qui permettent une meilleure détection de la menace terroriste et qui nous permet aujourd'hui d'avoir un dispositif où l'ensemble des relations sont beaucoup plus fluides, peut-être que ça avait pu être préalable.
Alors justement, les attentats de 2015 avaient mis en exergue quelques difficultés d'organisation à plusieurs niveaux. Comment les capacités d'opérationnel ont-elles été renforcées à votre niveau, à celui au niveau du parquet?
Alors, au niveau du parquet national terroriste, la création de celui-ci a permis d'avoir un cadre dans lequel sont, sur le sol ministère public, spécialisés 30 magistrats, 20 personnels de ce qu'on appelle les équipes autour du magistrat, les greffiers et les assistants spécialisés et attachés de justice qui permettent d'avoir un dispositif opérationnel très puissant. Là, je parle du ministère public, mais à côté duquel, il ne faut pas oublier les magistrats du siège, 40 magistrats du siège, les juges d'instruction antiterroristes, les juges d'application des peines antiterroristes, les juges des enfants, dont certains sont spécialisés également sur la matière, ou évidemment l'ensemble des magistrats du siège qui jugent les procès terroristes au niveau correctionnel. Ce qui fait qu'on a désormais un dispositif en tout qui comprend aux environs de 70 magistrats qui constituent une véritable juridiction antiterroriste. C'est ce qui permet aujourd'hui d'avoir des réponses, je pense, rapides et pleinement adaptées à la menace à laquelle nous sommes confrontés.
En 2015, on parlait d'attentats projetés, autrement dit projetés depuis la Syrie. Depuis, on a assisté à des actes terroristes dits inspirés, c'est-à-dire menés par des individus beaucoup plus isolés. Comment aujourd'hui voyez-vous évoluer cette transformation de la menace terroriste? Comment est-ce que vous la cernez?
Alors je crois que la menace, elle a en effet, la menace djihadiste, elle a beaucoup évolué depuis 2015, où elle était à ce moment-là, comme vous l'avez indiqué, essentiellement caractérisée par soit la projection d'individus depuis Daesh, soit le pilotage d'individus directement depuis la Syrie. Aujourd'hui, la menace telle à laquelle nous sommes confrontés, qui est extrêmement vive, je pense qu'il faut être très clair sur le sujet, parce qu'on le voit à travers le nombre d'enquêtes que nous ouvrons tous les ans, qui est particulièrement élevé. Elle se caractérise de façon très différente. Elle est entièrement endogène, c'est-à-dire par des individus qui se radicalisent très vite sur le territoire, en se nourrissant essentiellement de la propagande qui est diffusée par les organisations terroristes, mais individus qui n'ont pas forcément eux-mêmes de rapport avec les organisations terroristes. Et puis, à côté de cette approche macro, si je descends un petit peu en granularité, ce qui la caractérise particulièrement, c'est la jeunesse des personnes qui sont mises en cause. Jeunesse dans l'absolu, la plupart des mises en cause ont aujourd'hui moins de 20 ans, mais en étant encore plus caractéristique par le nombre de mineurs qui sont mis en cause tous les ans sur les faits terrorisme. Jusqu'en 2023, nous avions en général 2 à 3 mineurs qui étaient mis en examen des chefs de terrorisme par an en France. Nous en avons eu 15 en 2023, 19 en 2024. Nous sommes déjà à 15 au moment où nous parlons aujourd'hui pour 2025. Ce qui est un phénomène donc très nouveau, qui a cru de façon considérable en très peu de temps, et qui est un phénomène qui n'est pas propre à la France, que l'on retrouve au niveau européen, et qui est sans doute l'une des caractéristiques les plus frappantes de la menace telle qu'elle a évolué sur les toutes dernières années.
Ce qui constitue bien sûr un enjeu pour la justice française et, vous le disiez, européenne. Un autre enjeu, c'est celui des sorties des condamnés pour terrorisme. Question qui vous préoccupe.
La question des sortants de prison est un des enjeux majeurs du parquet national antiterroriste aujourd'hui. Pour vous donner là encore quelques chiffres, il y a 410 personnes qui sont suivies par mon parquet après avoir été condamnées pour des faits terrorisme, dont 223 sont actuellement détenues et 187 dans ce que nous appelons le milieu ouvert, c'est-à-dire des personnes qui ont fini la peine de prison ferme, mais qui sont dans les cadres des suivis qui existent une fois que les personnes ont fait la partie de prison ferme avant d'avoir purgé totalement leur peine. C'est un enjeu majeur parce que nous savons que le taux de réitération en matière de terrorisme peut être important et c'est un enjeu qui conduit à un travail très fin qui est fait à la fois dans la partie détention des personnes grâce notamment au lien que nous avons avec le service national du renseignement pénitentiaire intramuros. Et ce travail permet, avec un début d'évaluation sur ce plan qui se fait à 2 à 3 ans avant la sortie de détention, assurer le pont, le lien avec le suivi une fois sorti de détention qui sera assuré là par la Direction Générale de la Sécurité Intérieure, qui permettra de vérifier que les personnes respectent scrupuleusement les obligations auxquelles elles sont soumises, afin de pouvoir réagir immédiatement s'il y a une entorse au respect de ce qui leur a été imposé. C'est quelque chose qui mobilise un pôle entier de mon parquet et je suis très attentif à la qualité du suivi qui est assuré, d'autant plus que au-delà du suivi sur le profil des personnes, comme je l'évoquais un petit peu tout à l'heure, le régime de l'exécution des peines et de l'application des peines en matière de terrorisme est très dérogatoire au droit commun et donc exige une technicité et une connaissance très fine de l'ensemble de ces dispositions.
Olivier Christin, je vous remercie.
Alors, Olivier Christine, donc, procureur national antiterroriste, entretien enregistré avec Florence Turm. Alors, bien sûr, on aborde aujourd'hui ces commémorations en ayant tous en tête des images de cette nuit de terreur, mais pas seulement. Chloé Leprince, bonjour.
Bonjour.
Il existe aussi des sons de ce drame et en l'occurrence de l'intérieur du Bataclan. La diffusion de ces sons au moment du procès, il y a quelques années, n'avait d'ailleurs pas fait consensus, certaines victimes y étant formellement opposées. On avait entendu d'abord 22 secondes, puis finalement de plus longs extraits. Or, on a le sentiment qu'aujourd'hui, la diffusion de ces sons et de ces images, donc d'épouvante, à froid, ne fait plus débat.
Oui, c'est comme si ça allait de soi de mémorialiser ce drame avec ses cris. On retrouve très largement ces images et ces sons dans les médias, mais maintenant aussi dans des œuvres de fiction, la série des vivants pour France 2 par exemple. Et ça pose la question du statut de ces documents, appelons ça comme ça. Est-ce qu'il s'agit déjà d'archives, alors que ce sont aussi les pièces du dossier judiciaire? Est-ce pornographique de faire circuler des sons où l'on entend un terroriste crier et tuer des gens? Faut-il s'habituer à ce que des personnages qui cancerent des protagonistes de la vraie vie visionnent plein écran ce qui sont les traces réelles du 13 novembre comme des marqueurs d'authenticité? Or, leur diffusion au procès n'était pas du tout allée de soi. Les associations de victimes, les familles étaient très divisées sur le sort de ces images et de la bande-son de plus de 2 heures trouvée par la police dans le dictaphone d'un des spectateurs au Bataclan. Très vif débat juridique, mais aussi éthique sur leur usage judiciaire, y compris sur la manière de les diffuser au procès pour éviter l'effet son et lumière. L'historienne Sylvie Lindeperck travaille sur le statut des images du procès du 13 novembre et elle interroge par ricochet la fonction de ces traces du drame.
Quand on a assisté au procès, qu'on a entendu le débat très argumenté et parfois très tranché sur la possibilité de voir ou de ne pas voir, d'entendre ou de ne pas entendre ce qui constitue une preuve et une pièce du dossier judiciaire, et que l'on retrouve ces sons ou ces images à l'extérieur de l'enceinte judiciaire dans des dispositifs qui leur donnent une toute autre fonction et qui, dans le même temps, prolongent les questions fondamentales qui ont été posées à l'audience, de l'usage, y compris propagandiste, qui peut être fait de ces images, et de la question de la nécessité ou non d'exposer ces images de mort. Ces images, elles auraient certainement dû être intégralement visionnée et cette bande intégralement entendue à l'audience et restée ensuite dans le dossier d'instruction. Or là, on assiste au phénomène inverse.
Alors ces images appartiennent par ailleurs à ceux qui les tournent, hein. Daniel Pseni, l'ancien journaliste du Monde qui disait avoir sorti son téléphone par réflexe et filmé pendant plus de 6 minutes, a retrouvé 7 des victimes qu'il a filmées il y a 10 ans. Il en a fait un documentaire sur LCP.
Merci Chloé Leprince. Nicolas Sarkozy est reconnu coupable d'avoir sciemment laissé ses collaborateurs démarcher l'alibi de Mouammar Kadhafi pour solliciter un financement occulte de sa campagne présidentielle de 2007. Condamné à 5 ans de prison pour association de malfaiteurs, sera jugé en appel du 16 mars au 3 juin. C'est ce qu'a annoncé ce matin la Cour d'appel de Paris. Puis rappelons que dans 15 jours, la Cour de cassation rendra elle son arrêt dans l'affaire dite Big Malion, pour laquelle l'ex-chef d'État a été condamné en appel à 1 an d'emprisonnement.
Bien que controversée et contestée, elle constituait la seule réforme d'ampleur du second quinquennat d'Emmanuel Macron.
Et hier, auprès de la non-censure, les députés ont largement approuvé la suspension de la réforme des retraites. Le gouvernement, en revanche, sans attendre que les députés aient pu se prononcer en première lecture sur l'ensemble du budget de la Sécurité sociale, a envoyé le texte au Sénat.
C'est donc de Berlin que sera venu hier le salut pour celui qui, depuis plus d'un an, espérait une libération.
Oui, plus exactement, une grâce accordée par le président algérien Abdelmadjid Tebboune, à la demande de son homologue allemand. Dès son arrivée hier soir, l'écrivain dissident Boualem Sansal, 81 ans, figure primée de la littérature en même temps qu'essayiste polémiste, connu pour ses critiques à l'égard des autorités de son pays natal, a été transféré dans un hôpital, traité pour un cancer. Un soulagement évidemment pour ses proches. Notre correspondant Sébastien Baer a pu s'entretenir avec François Delattre, ambassadeur en Allemagne. Il est le premier officiel français à avoir rencontré l'écrivain. C'est lui qui a accueilli hier soir, qui l'a accueilli à son arrivée à l'aéroport pour ses premiers pas d'homme libre.
Ce fut un grand moment d'émotion. Je l'ai trouvé rayonnant de bonheur d'être libre, très chaleureux, dans une condition physique satisfaisante, si je peux en juger. Les examens le vérifieront. Il m'est littéralement, si je puis dire, tombé dans les bras, soulignant par ailleurs sa reconnaissance à la France pour son soutien constant. Ça l'a beaucoup marqué. Il a tout de suite, après donc cet échange sur le tarmac, été conduit dans l'un des hôpitaux de Berlin pour s'y reposer, pour y subir aussi des examens médicaux afin de vérifier son état de santé. Et j'irai naturellement accueillir ce soir l'épouse de Boualem Sansal. Les deux se trouveront ainsi réunis et pourront profiter de ce moment, encore une fois, de grande émotion.
Vous a-t-il fait part de son intention de retourner ensuite en France ?
Il n'en a pas parlé, j'imagine que c'est le cas. Son domicile est en France, donc j'imagine que c'est le cas, en effet.
François Delattre, ambassadeur de la France en Allemagne, interrogé par Sébastien Baer.
Les émissions de dioxyde de carbone issues des énergies fossiles devraient atteindre un nouveau record cette année.
Et c'est ce qui ressort d'une étude scientifique de référence publiée ce matin et qui vient confirmer par ailleurs qu'il sera quasiment impossible de limiter le réchauffement planétaire à moins de 1,5 degré. Un constat d'échec qui intervient alors même que toutes les nations sont actuellement réunies au Brésil pour la conférence de l'ONU sur le climat. Le climat a décidément toujours et encore à la peine. Ce matin même, le Parlement européen a décidé de détricoter la loi sur le devoir de vigilance environnementale et sociale des grandes entreprises. Initialement, ce texte, adopté en 2024, devait obliger les entreprises de plus de 1000 salariés à prévenir et remédier aux dommages environnementaux, ainsi qu'aux violations de droits humains sous peine de sanctions. Mais c'était là, sans compter la levée de bouclier du lobby industriel, dans un contexte marqué par la concurrence de la Chine et les droits de douane américains. Fabien Cazot, bonjour.
Bonjour.
En direct de Bruxelles, en réalité, cette loi ne fait pas seulement les frais donc du virage, disons, pro-business de l'Union européenne, puisque la décision de ce matin, Fabien, vient aussi confirmer la convergence de plus en plus manifeste de la droite avec l'extrême droite.
Absolument, les deux viennent d'unir leurs voix. Résultat, par 382 votes contre 249, les mesures de simplification administrative négociées et amplifiées ces dernières semaines par la droite et l'extrême droite viennent d'être adoptées. Les tractations avaient échoué avec la gauche et le centre, qui sont les partenaires habituels de la droite européenne au sein de la coalition qui soutient la Commission. Résultat, les entreprises ne seront par exemple plus tenues de produire des plans climat pour mesurer l'impact de leurs activités. Les obligations en cas de violation des droits de l'homme par des entreprises sous-traitantes passent elles aussi à la trappe. L'extrême droite crie victoire. Les centristes et les écologistes déplorent un triste jour pour l'Europe. Seule consolation pour eux, l'approbation lors de la même séance de vote ce midi de l'objectif climat 2040 qui prévoit à cette date-là une réduction des émissions européennes de gaz à effet de serre de 90% par rapport à 1990.
Merci Fabien Cazot, en direct de Bruxelles. On termine avec un mot du temps pour cet après-midi, globalement ensoleillé à l'exception de la Bretagne où quelques averses seront possibles. Quant aux températures, elles seront comprises entre 14 et 22 degrés jusqu'à 27 au pied des Pyrénées. C'est la fin de ce journal, il était réalisé par Axel Dubois. Et à 18h, vous avez rendez-vous avec Mathieu Laurent pour le prochain journal de la rédaction.